ce matin, on va parler de blog et d'écriture en ligne avec Pierre Monnier, que vous connaissez, donc, qui est le fondateur d'Homo Numericus et qui a été recruté dans un mercato très coûteux parce que, au Centre pour l'édition électronique l'année dernière et qui préside aux formations et aux usages chez nous. Voilà. Donc, je voudrais dire qu'il a écrit un bouquin il y a quelques années sur les maîtres du réseau, qui était une lecture politique des enjeux technologiques, ou une lecture technologique des enjeux politiques, je ne sais pas comment on peut dire, de l'organisation du réseau, mais alors sur des strates très très austères et pénibles qui sont l'ICANN, le DNS, etc. Mais qui introduisent des notions comme l'économie de la rareté, dont j'ai parlé pour les DOI, mais qui se sont des problèmes qui se sont déjà posés au moment du nommage des noms des sites et des noms de domaines, et qui ont produit des spéculations sur les noms de domaines. Donc, les maîtres du réseau est encore disponible.
Et non, c'est épuisé en fait.
Ah, il est épuisé. Et, on va le
en ligne.
On va
c'est une idée.
Ouais. On va le pirater. Oui, il est pas sur Google Books.
Non.
On va le pirater. Voilà, faire un hyperbo, ça aurait été plus intéressant. Donc, ouais, mais c'est déjà du passé parce que ça parle de sujets qui sont un peu. Qui ont été tranchés en tout cas. Pas nécessairement dans le bon sens toujours, mais voilà. Et maintenant, il va nous parler de ce qui semble émerger de plus en plus, c'est des écritures par les chercheurs en ligne autour de la forme du blog. Et donc, on va se faire taper dessus parce qu'il a un titre en anglais. Voilà, pardonnez-nous, mais on va s'assumer. Je crois, Pierre, je te laisse la parole.
Ok, merci. Voilà. Donc, pour commencer, en fait, cette présentation sur le blogging scientifique, je voudrais rebondir sur la remarque qu'a fait Gabriel Galezo hier matin dans sa conférence. Vous vous souvenez qu'il vous a présenté une frise chronologique de l'histoire de la communication scientifique, dont une des origines, c'est au XVIIe siècle, la création de deux revues scientifiques, que sont le Journal des Savants à Paris en 1665, et quelques mois après, les Philosophical Transactions par Henry Oldenburg à Londres. Et effectivement, c'est une origine importante un repère important dans la chronologie et dans l'histoire de la communication scientifique parce que c'est l'origine de la communication scientifique moderne. En fait, je voudrais par rapport à ces repères historiques, je voudrais préciser une chose avant de parler du blog à proprement parler. Dans son article qu'il a publié en 2001, Jean-Claude Guédon, vous connaissez cet article de Jean-Claude Guédon publié en 2001 qui s'appelle « Dans l'ombre d'Oldenburg », dans la bibliothécaire, chercheur et éditeur et le contrôle de la publication scientifique. C'est un article un peu fondateur, très important pour l'open access en particulier. En fait, Jean-Claude Guédon, dans son introduction, fait une remarque qui, me semble-t-il, est intéressante. Donc, selon lui, il faut faire attention à ne pas mettre sur le même plan ces deux revues qui ont été fondées quasiment la même année, les Philosophical Transactions d'un côté et le Journal des Savants de l'autre. Les Philosophical Transactions, en fait, pour lui, sont véritablement la revue qui marque le début des revues scientifiques modernes telles qu'on les connaît. C'est-à-dire, et je cite, un bureau des enregistrements des découvertes scientifiques. Et c'est bien dans cette revue, les Philosophical Transactions, qu'est inventé le peer reviewing, que sont inventées les procédures formelles d'évaluation et d'écriture scientifique. À l'opposé, le Journal des Savants, dit Guédon, donc cette publication française, reproduisait un modèle d'échange épistolaire manuscrit, typique de la République des Lettres, quelque peu cancanier et porté sur l'actualité. Et là, on a l'ouverture d'une autre tradition de communication scientifique, que moi j'appelle un mode mineur de la communication scientifique, qui n'est pas tellement portée sur, si vous voulez, la publication et la diffusion de connaissances scientifiques validées, mais qui porte sur la conversation scientifique, en fait, qui précède évidemment la publication, l'information scientifique qui est liée aux nouveautés qui sont dans le champ, et que représente bien le journal des savants. Alors, une autre petite référence qui est intéressante aussi, parce que il y a une longue tradition en fait dans les milieux scientifiques d'échanges épistolaires entre savants dans l'Europe depuis au moins le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont des emails, mais c'est toujours la même chose. Et évidemment, les historiens ont toujours été très intéressés, surtout les historiens des sciences ont toujours été très intéressés par ces échanges épistolaires, parce que s'y révèlent des choses qui n'apparaissent pas, évidemment, dans les articles qui sont le résultat des recherches scientifiques. Et ici, je cite Christophe Prochasson, donc dans un article qu'il écrit dans les cahiers du Centre de Recherche Historique, publié sur le portail Revue.org, affilié à Revue.org, et qui est la chose suivante. La virulence du débat qui opposa Einstein et Lorentz autour de la relativité et de la théorie quantique se trahit dans la correspondance que les deux physiciens échangèrent. Einstein s'y acharne en termes inusités dans ses textes publics à détruire la théorie quantique. La forme d'un débat épistolaire n'est pas sans éclairer son contenu et la radicalité de certaines positions scientifiques, philosophiques ou esthétiques s'éclaire des conditions d'opposition dans lesquelles celles-ci sont nées. Donc il y a bien ici quelque chose d'autre que ce qu'on peut lire dans les articles scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture. Il y a bien d'autres informations, il se passe d'autres choses dans les conversations en fait que les scientifiques mènent entre eux par lettre, mais aussi par oral, dans les séminaires, dans les colloques, dans les couloirs, et ainsi de suite. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur cette notion de blog, et vous allez voir très vite qu'il va y avoir une convergence entre cette idée de blog et cette idée de conversation scientifique. Donc, évidemment, on connaît tous les blogs, on sait ce que c'est qu'un blog, on en a lu à peu près tous, etc. Mais comme a fait Gabriel hier, il a essayé de préciser un certain nombre de notions qu'on connaît tous comme ça, et l'idée, c'était justement d'essayer de les définir un peu plus précisément. Ben, je vais essayer de faire la même chose très vite sur le blog pour qu'on sache exactement de quoi on parle lorsqu'on parle d'un blog. Alors, on peut commencer sur les origines du blog non scientifique, hein, le blog classique, si vous voulez, que pas mal de gens font débuter aux alentours de 1994, 95, 96, avec deux personnages en particulier, l'un qui est un étudiant, Justin Hall, et qui publie une espèce de site web en 1994, donc très, très rudimentaire évidemment, qui s'appelle Justin Links from the Underground, qui est en fait, comme le titre l'indique, au début, une liste de liens qui s'ajoutent et des liens actualisés. Ce sont les nouveaux, comme il y avait beaucoup à l'époque d'ailleurs, ce sont les nouveaux sites qu'il repère et les nouvelles ressources intéressantes, etc. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de son blog, donc, il se met à parler de plus en plus de sa vie, en fait, et de ce qui lui arrive, de ses réflexions personnelles, et il devient un des premiers blogueurs. Et il y a un autre terme qui apparaît lorsqu'on décrit son activité à cette époque, c'est « online diarist », donc quelqu'un qui tient un journal intime en ligne. Un autre blogueur historique pionnier de l'époque, c'est Dave Winner, qui est lui un programmeur, un informaticien, et qui publie dès 1994, non pas sur le web mais par mail, une newsletter qui est qualifiée de la manière suivante « A stream of consciousness newsletter distributed by email ». Et évidemment, c'est Stream of Consciousness qui est intéressant ici, parce qu'on a quelque chose qui est spontané, qui est non finalisé, non formalisé. On a des idées rapides qui sont distribuées par email. Et puis, à partir de 1996-97, il publie sur le... Alors, si vous voulez, DevNet, en fait, c'est bien une newsletter, une liste de diffusion par mail, qu'il archive sur le web, dont il publie les archives sur le web. Et puis, à partir de 1996-97, évidemment, il ouvre un espace web qu'il alimente directement et qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Scripting News, et qui a été vraiment très très célèbre. Voilà un peu une première approche sur le blog. Il y a un deuxième repère historique sur le développement du blog, c'est 1999, que j'appelle l'année des plateformes de blog, parce qu'elles naissent, ces trois-là en tout cas, naissent la même année. La plateforme Blogger, que vous connaissez sans doute, qui est très célèbre, qui a été rachetée par Google depuis, hein, et qui a joué un rôle très très important dans la popularisation de la pratique du blog. La plateforme Open Diary, reconnaissez Diary dans le titre de cette plateforme, et Live Journal, qui apparaît aussi à cette époque. Et si vous voulez, à partir de l'apparition de ces plateformes de blog, Il y a une explosion de la pratique du blog et des nombres de blogs. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée en termes de compétences techniques pour tenir un blog s'effondre brutalement. Il n'y a plus besoin d'avoir de connaissances informatiques. On a des interfaces web qui permettent aux blogueurs de bloguer directement, très facilement, et donc tout le monde peut commencer à bloguer, ce qui n'était pas le cas avant. Définition maintenant. Alors, il y a énormément de définitions du blog. Moi, il y en a une que je retiens, c'est celle de Wikipédia, version anglaise, qui est la suivante. Donc, un blog, contraction du terme weblog, est un site web généralement alimenté par un individu avec des publications, des entrées régulières de commentaires et de descriptions d'événements ou d'autres matériaux comme des images ou des vidéos. Les entrées sont en général affichées par ordre chronologique inverse. Beaucoup de blogs donnent des commentaires ou des nouvelles sur des sujets particuliers. D'autres fonctionnent comme des journaux intimes en ligne. Et là, on a vu en 1994 ce qui s'était passé. Un blog typique combine des textes, des images et des liens vers d'autres blogs, des pages web et d'autres médias. La capacité pour les lecteurs de laisser des commentaires dans un format interactif est une partie importante de beaucoup de blogs. Donc là, il y a des éléments qui sont essentiels. C'est bien qu'est-ce qu'un blog ? C'est bien un site web. C'est un site web avec des entrées régulières sous forme de commentaires ou de descriptions d'événements, classés par ordre chronologique inverse, avec des commentaires des lecteurs. Ça, c'est très important. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de qualifier ça de manière un peu plus précise, et en particulier une expression qui a eu beaucoup de succès, qui a consisté à dire « A blog is a conversation. People go to blogs to read and write, not just consume. » Et c'est Gerrit Visser dans Smart Mobs qui le marque ici. Alors, comme image d'illustration, j'ai pris un blog dont vous voyez ce que fait la maquette de ce blog. Elle présente les commentaires des lecteurs comme des bulles de bande dessinée. Et on voit bien ici qu'on a une mise en scène, en quelque sorte, de la conversation avec les lecteurs qui s'affiche par les bulles de bande dessinée. Et c'est le blog d'Antoine Blanchard, comme par hasard, que je vous présenterai un peu plus tard, qui présente les choses comme ça. Mais en fait, c'est des maquettes un peu toutes faites et on le retrouve sur de nombreux blogs. Mais là, on voit bien ce modèle de la conversation. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que la science aussi, comme on l'a vu au début, est une conversation. Et donc là, il y a une jonction entre les deux modèles, entre le blog comme conversation, une jonction possible, théorique, entre le blog comme conversation et la science comme conversation. Alors cette photo, elle est particulière, c'est une photo qu'Élodie a prise en fait, en marge de la cérémonie de signature de l'UMS. Et ici, on a deux scientifiques, donc Philippe Sibois, qui est un sociologue, et Nathalie Petitot, qui est une historienne, qui, en marge de cette cérémonie très officielle, très de signature, eh bien, ont entamé une conversation sur un coin de table, et j'aime à penser que c'est une conversation scientifique. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un blog de science ? On entre véritablement dans le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un blog de science ? Et il y a plusieurs personnes qui ont essayé de donner des expressions qui rendaient compte de cette caractéristique des blogs de science. Alors André Günther, dont je reparlerai un tout petit peu plus tard, le qualifie, ce blog de science, de séminaire virtuel permanent. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé une conjonction entre sa pratique scientifique traditionnelle de séminaire, qui est une pratique de conversation scientifique, et la pratique du blog qui, si vous voulez, donne une nouvelle dimension au séminaire et finalement est un lieu d'organisation d'un séminaire, mais avec une explosion, si vous voulez, des limites temporelles et géographiques qui contraignent le séminaire habituellement. C'est le séminaire qui est virtuel, donc partout et permanent. Marin Dacos, donc, à côté de moi, dans un texte qu'on a rédigé tous les deux, qualifie ce blog de nouvelle forme de la disputatio, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer qu'il y a aussi, de la même manière, une continuité historique, en fait, dans les pratiques de conversation scientifique et d'opposition d'idées et de construction des idées dans les communautés scientifiques depuis les débuts de la science moderne jusqu'à aujourd'hui. Et puis Jill Walker, dont je vais reparler aussi, qui est une blogueuse australienne émigrée en Norvège, célèbre, le qualifie de « democratizing conversation », parce que c'est une conversation, mais qui s'affranchit, en fait, qui cherche à s'affranchir du caractère un peu formel, cadenassé, verrouillé, des lieux formalisés de conversation scientifique habituels. Moi, je vais revenir sur cette notion. Alors, deux témoignages de chercheurs blogueurs maintenant, pour essayer de qualifier un tout petit peu plus ce que c'est que ces blogs. Donc, Jill Walker, en l'occurrence, je commence par elle, qui a écrit deux textes très intéressants, à mon avis. Le premier, c'est Blogging Thoughts, Personal Publications as Online Research Tool, avec Tony Mortensen. Et c'est un article qui a été publié en 2002. C'est un des premiers articles à traiter de la question du blog scientifique. Et c'est un article que toutes les deux ont écrit alors qu'elles étaient doctorantes, en fait, en littérature. Hein, c'est des littéraires. Et puis, elle a écrit un deuxième article qui s'appelle Blogging from Inside the Ivory Tower, qu'elle a écrite en 2006, où là, elle avait passé sa thèse, elle a été recrutée, elle a eu sa tenure, et donc elle est devenue, et en plus elle est devenue responsable de son département scientifique, de son département d'université. Et là, elle dit que ça lui a posé un certain... Le blogging, le continuer son activité de blogging lui a posé un certain nombre de problèmes, et elle réfléchit là-dessus. Alors c'est ça qu'elle dit, hein, sur le blog, c'est les idées en gros qu'elle annonce sur ce blog, c'est les avantages et les limites d'un genre mineur. Le blog, c'est un genre d'écriture scientifique, c'est bien un genre mineur par rapport à la publication dans des revues à comité de lecture ou la publication de livres. Et le fait d'ailleurs que ce soit un genre mineur est intéressant, parce que comme il est mineur, il permet d'ouvrir un espace de liberté pour le chercheur, où il peut s'exprimer de manière plus libre que dans des espaces contraints formels et dans des lieux de publication majeurs. Et cette liberté, en fait, qui est un interstice entre le privé et le public, en fait, se fait sur un mode relativement égalitaire, c'est-à-dire qu'on retrouve sur les blogs, dans les conversations qui se créent sur les blogs, en fait, entre l'auteur et les lecteurs, et entre les lecteurs eux-mêmes, une égalité des pairs qu'on peut avoir perdue, en fait, dans d'autres lieux plus légitimes, plus contrôlés, on va dire. Et par ailleurs, pour elle, le blog est un véritable outil de recherche, avec cette expression « thinking with my fingers », c'est-à-dire l'idée que le blog, c'est le lieu où le chercheur va pouvoir jeter ses hypothèses. Hein. Donc le terme même d'hypothèse prend un sens tout particulier, et vous allez voir, et c'est évidemment la raison pour laquelle nous, on l'a choisi pour notre plateforme de blog, et jeter ses hypothèses, et le fait de jeter ses hypothèses par écrit, sur un blog, et d'en discuter immédiatement avec ses lecteurs, c'est une manière d'avancer dans sa propre pensée, d'avancer dans son propre raisonnement. Le deuxième témoignage, c'est celui d'André Günther, qui est... 30, d'accord. Un chercheur en histoire visuelle à l'EHESS et qui tient un blog qui s'appelle « Actualité de la recherche en histoire visuelle ». Et donc, dans un billet relativement célèbre qui s'appelle « Why blog ?», donc « Pourquoi est-ce que je blogue ?», André essaie d'avancer un certain nombre de raisons pour lesquelles il blogue et ce que ça lui apporte. Alors, vous les voyez ici. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont importantes, en particulier avec une coquille, la capacité pour le blogueur de bloguer quand il le souhaite et donc d'échapper au diktat de la deadline, hein, pour la publication. Donc c'est ce qu'il dit sous la forme deadline is dead. Le blogueur peut bloguer quand il le souhaite, de manière totalement libre, à 3h du matin si ça chante, ne rien bloguer pendant 15 jours, passer à autre chose, etc. Encore une fois, ce qui revient, si vous voulez, dans tous les témoignages de scientifiques blogueurs, c'est qu'ils gagnent un espace de liberté, en fait. Et c'est ça qui leur plaît. Hein. Et là, on voit aussi que cet espace de liberté apparaît à travers ce témoignage. Donc le séminaire permanent, j'en ai parlé. La culture de l'expérience, c'est aussi lié à cette liberté, c'est-à-dire le fait que, puisque c'est un espace qu'il maîtrise et qui est mineur, il a la capacité de prendre des risques et de faire des expérimentations sans forcément être exposé à une critique trop vive qui va avoir des conséquences trop importantes, etc. Et donc, il y a l'idée d'un atelier, l'idée d'un lieu où on peut expérimenter un certain nombre de choses sans risque. Alors, voilà un peu pour une approche un peu générale sur le blog et le blog scientifique. Maintenant, je vais vous montrer des exemples concrets parce que c'est quand même intéressant de voir ce que ça donne concrètement. Et il y a quelque chose qui, depuis que nous, l'équipe qui anime Hypothèse, depuis qu'on a ouvert Hypothèse, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que le blog, c'est un genre bien défini, d'accord ? C'est un genre défini, j'ai essayé de le définir assez précisément. Mais à l'intérieur de ce genre, il n'y a pas deux blogs qui soient similaires l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une véritable diversité de la manière dont les acteurs, dont les personnes qui bloguent, s'emparent de ce genre, s'emparent de cet outil de publication et en font quelque chose de bien à eux. Et donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire par l'expression ici, les mille fleurs de la blogosphère scientifique, cette idée d'une diversité des usages du blog scientifique qui... je trouve est enthousiasmante et intéressante. Alors des exemples, je vais passer vite sur un certain nombre d'exemples, mais j'espère aussi peut-être vous donner un peu envie de les lire et aussi de prendre part à cette activité d'écriture. Dans les blogs, il y a bien sûr des carnets de chercheurs, comme Médiévisme, celui-ci qui est le carnet de recherche. De Paul Bertrand qui est un historien médiéviste et qui tient son blog ici. Il y a des professeurs de littérature aussi qui tiennent des blogs. Donc l'Épée du Soleil, c'est le blog de René Audet qui est un professeur de littérature au Canada et qui tient son blog de chercheur et d'enseignant-chercheur. Alors, souvent, dans les blogs, on voit des écritures personnelles et c'est un chercheur ou une personne qui tient un blog, des blogs personnels, si vous voulez. C'est un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des blogs collectifs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui se mettent ensemble, qui bloguent ensemble sur un même blog, et qui partagent cet espace, en fait, qui partagent un espace pour s'exprimer et du coup pour échanger entre eux, parce que évidemment ils écrivent des billets tous, mais évidemment ils se répondent aussi les uns les autres dans les commentaires des billets des autres. Alors je vous ai donné deux exemples ici, un exemple français, donc révolutionfrançaise.net, qui est alimenté par tout un ensemble de chercheurs qui travaillent sur le sujet, et puis Cooke Timber, qui est un exemple historique, une espèce de référence un peu pour les blogueurs scientifiques, en SHS en particulier, qui est donc un blog collectif assez ancien et assez reconnu sur le sujet. Mais c'est pas que ça. Donc il y a aussi d'autres usages, comme j'essaie de vous le montrer. Il y a ici Boîte Noire, c'est le blog de François, donc François Briat, qui est un doctorant en sciences politiques, et qui publie sur son blog les petites choses utiles du mardi. Donc toutes les semaines, il s'est assigné une discipline d'écriture qui consiste à publier... Ben, vous voyez ce que c'est en... Ah non, là, vous ne le voyez pas. Si, oui, vous le voyez, vous pouvez le voir en tout cas. C'est une liste de liens commentés sur ce qu'il a trouvé, en fait, comme nouvelles ressources, comme ce qu'il a lu dans la semaine, avec ses commentaires. Et il a... Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il a éditorialisé, en quelque sorte, cette activité, en se fixant un rythme hebdomadaire, comme ça, en lui donnant un titre un peu journalistique, on va dire, un peu « Les petites choses utiles du mardi », c'est assez bon comme titre, je trouve. Et du coup, ça lui donne une discipline, et ça en fait une publication en série, en fait, qui est vraiment intéressant. Voilà, totalement autre chose. Carnet de fouilles archéologiques, donc ça, c'est un blog que nous hébergeons sur Hypothèse, le blog de la Grotte des Fraux, et qui est tenu par une équipe du CNRS, fait des fouilles archéologiques sur une grotte près de Montpellier, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça va, je ne me trompe pas trop. Et ce qui est intéressant, c'est que cette équipe, en fait, tient au courant ses pairs, mais aussi un public plus large, de l'avancée de ces campagnes de fouilles archéologiques année après année. Parce que les campagnes de fouilles, vous savez, ne s'étendent pas sur toute une année, elles durent quelques mois, et ensuite, là, l'équipe s'en va, travaille ses matériaux et revient l'année suivante. Et donc, ce blog, il est à épisodes. C'est-à-dire que le blog, il est actif pendant un certain nombre de mois, puis après il s'endort, et après il redémarre, et après il s'endort, et ainsi de suite. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a pas mal de projets de carnets, donc de blogs, de projets de recherche. Donc ici, sur Hypothèse, un projet de recherche, un programme de recherche sur les émotions au Moyen-Âge qui est tenu par Damien Bocquet, qui est enseignant à l'université ici, tient sur ce carnet, qui présente son projet et qui... Alors, il donne, si vous voulez, il publie l'actualité de son projet, c'est-à-dire ce qu'il fait, les conférences auxquelles il participe, etc. Mais il y a aussi un aspect de veille, c'est-à-dire qu'il tient sur ce carnet une veille scientifique sur son domaine, évidemment, hein, qui est le traitement des émotions et donc les recherches sur les émotions ou sur l'histoire des émotions. Donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Carnet ou blog de séminaire, c'est évident. Hein, vous avez quelqu'un qui tient un séminaire, vous organisez un séminaire ou une équipe organise un séminaire, ben c'est pas mal d'avoir un site web, et comme c'est un séminaire, on va quand même pas faire un site web à partir de zéro, très défini, d'autant plus que le séminaire il est éphémère. Et donc c'est intéressant d'ouvrir le blog du séminaire qui va permettre de communiquer avec le reste du monde en fait, mais surtout la communauté scientifique un tout petit peu plus large que les participants du séminaire. Alors ici, le séminaire MIDAS, donc Mobilité, Migration, Diaspora d'Asie du Sud, publie sur son blog les enregistrements audio, par exemple, des communications qui sont faites dans le séminaire. Et évidemment, annonce les futures séances, publie la bibliographie du séminaire. Donc vous voyez, c'est un outil de publication dont les chercheurs se sont emparés. En fait, on n'avait même pas, nous, eu l'idée, en fait. C'est vraiment les premiers projets qui sont arrivés. Ça a été des projets de séminaire. Nous, on n'avait rien demandé, rien dit de particulier, quoi. Et c'est vrai, ça, c'est super. C'est vraiment des gens qui ont trouvé comment utiliser cet outil de publication pour leur usage à eux, en fait, et qui ont réussi à l'intégrer dans leur pratique de recherche scientifique directement, à l'enquister dedans. Et ça, c'est excellent. Des carnets de veille aussi. Donc, pour sortir aussi un peu d'hypothèse, il y a ici ceux qui animent ce carnet de veille, un centre de documentation et de recherche sur la Chine moderne et contemporaine. Donc, ici, c'est en particulier Jacqueline Nivard qui est auteur de ce blog. On pourra éventuellement... vous pourrez témoigner éventuellement dans la discussion si vous le souhaitez. On voit ici que le carnet permet encore une fois de publier des informations de veille. C'est-à-dire, lorsqu'on fait de la veille scientifique, que l'on soit chercheur, documentaliste, acteur de la science, eh bien, ça vaut le coup de partager cette veille en alimentant un carnet de recherche. Alors, les blogs... où les carnets peuvent accompagner aussi des publications plus formalisées, en amont ou en aval. Donc ici j'ai fourni deux exemples d'un blog qui accompagne la revue Vertigo, qui est une revue adhérente de revue.org, et à côté de la revue, donc sur Hypothèse, vous avez ici le blog de la revue, sur lequel en fait sont diffusés tout ce qui concerne la vie de la revue, la vie de son champ scientifique, et éventuellement même des structures qui soutiennent la revue, le laboratoire, l'équipe scientifique, etc., en annonçant des appels à soumission, en annonçant des parutions, en faisant de la veille, et ainsi de suite. Alors, pour les livres, c'est la même chose, et un peu plus même encore, parce que ici, j'ai l'exemple d'un blog qui s'appelle Quanti, qui est un carnet de recherche sur Hypothèse, qui est animé en particulier donc par Pierre Merclé et Olivier Gauthier, qui sont deux enseignants-chercheurs en sociologie, et qui sont en train de préparer un livre, donc un manuel en fait, hein, un repère, sur l'utilisation des méthodes quantitatives en sciences sociales. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert leur blog très tôt, au début du projet, et sur ce blog, Quanti, en fait, ils pré-rédigent en quelque sorte leur livre, c'est-à-dire qu'ils soumettent à leurs futurs lecteurs, évidemment, et à la communauté scientifique, mais aussi aux étudiants, etc., et au grand public, eh bien, les premières versions de ce qu'il y aura dans le livre. Et évidemment, il y a des commentaires qui leur permettent d'améliorer ces premières versions pour qu'il y ait une version plus aboutie dans le livre qui prenne en compte ces commentaires et les commentaires qui auront été faits. Et j'ai vu des commentaires, effectivement, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai vu des commentaires d'étudiants qui ont dit à un certain moment, en commentaire, là, j'ai pas compris, là, c'est pas clair, et là, il y a quelque chose qui est intéressant dans l'interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que le blog, il continue au-delà de la publication du livre. Parce qu'évidemment, il va annoncer la publication du livre, mais une fois que le livre sera publié, les lecteurs pourront aussi revenir sur le blog pour avoir des mises à jour, pour avoir des compléments et pour discuter avec les auteurs. Donc là, il y a une interaction importante entre le livre et son lectorat, où le blog joue un rôle d'interface, en quelque sorte, entre l'auteur et son lectorat, à travers le livre et son blog. Alors les blogs, c'est aussi des blogs de débat où les chercheurs peuvent intervenir dans le débat politique, dans le débat de société, le débat public, excusez-moi, c'est l'expression que je cherchais, à partir de leur position de chercheur en utilisant leur blog. Donc ici, je présente très rapidement le blog Culture et Politique Arabe sur l'hypothèse. Excusez-moi, par volonté, en fait, j'ai choisi de prendre pas mal d'exemples sur la plateforme Hypothèse, parce que, après tout, pourquoi pas, pas parler forcément que des initiatives autres, mais aussi de celles avec lesquelles on travaille, ça vaut le coup aussi quelquefois. Et donc c'est Yves González-Quijano qui est maître de conférence en littérature arabe et en langue arabe à l'université Lyon 2, je crois, si je ne me trompe pas, ou 3, je ne sais plus. Ce maître de conférence qui est spécialisé en question de traduction tient ce blog sur lequel il fait quelque chose de particulier. Chaque semaine, lui aussi, il s'est imposé un rythme hebdomadaire. Il publie un billet sur lequel il analyse quelque chose d'intéressant dans la presse culturelle arabe pour essayer d'en analyser ce que cette presse culturelle arabe nous dit de la politique arabe, en fait. Et chaque semaine, vous avez un billet d'analyse assez souvent qui sont pertinents, qui apportent des éclairages sur ce thème. Et évidemment, il y a derrière lui, enfin il nous l'a dit, hein, il y a un enjeu politique pour lui qui est celui d'essayer d'améliorer, enfin c'est pas d'améliorer, mais c'est de faire évoluer la représentation du monde arabe aussi en France par ce blog. Alors il y a des débats de société, mais il y a aussi des débats dans la communauté scientifique. Et je pense que vous êtes au courant qu'il y a des débats dans la communauté scientifique sur l'évolution de la communauté scientifique et des conditions dans lesquelles la recherche s'effectue. Et donc, les blogs peuvent être aussi des lieux de débat, comme ici le blog Évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales, qui est un blog collectif sur la question de l'évaluation. C'est un moyen de débat, c'est un lieu de débat qui est justement relativement libre et qui permet à des positions de s'exprimer. Alors, j'avance dans mon raisonnement en essayant d'aller un tout petit peu plus loin, et là je convoque, si vous voulez, dans la conférence, quelqu'un avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois, qui s'appelle Antoine Blanchard. Enro, c'est son pseudo de blogueur, et qui a fait une conférence qui, moi, m'a marqué énormément, qui s'appelle « Ce que le blog apporte à la recherche ». Alors, sa conférence s'appelait « Ce que le blog apporte à la recherche », puis il en a fait un billet dans Internet Actu, enfin un texte dans Internet Actu qui s'appelle « Ce que le blog apporte à la science ». Et ce que je trouve très intéressant dans sa... Voilà ce que fait Antoine, en fait. Voilà ce qu'il a exposé. Son texte est en ligne, mais je le résume en 2 minutes. Il s'appuie sur quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est la rose des vents de la recherche, proposé par Calon et Laredo, pour essayer de qualifier les différentes dimensions de l'activité scientifique. Donc, Calon et Laredo disent que l'activité scientifique se dispatche en 5 domaines d'activité. Il y a bien sûr la production de connaissances certifiées, ça ce sont les publications dans les revues économie de lecture qu'on connaît. Il y a aussi une activité de formation, là les enseignants-chercheurs en particulier la connaissent bien, hein, et de transmission de compétences. Il y a troisièmement une activité d'innovation, et donc là il s'agit de la question du transfert des connaissances, des découvertes scientifiques, des connaissances scientifiques en réalisation technologique. Il y a une activité de création de biens collectifs, de prestige, de santé, de bien-être et d'environnement. Et il y a enfin une activité d'expertise et de vulgarisation, donc d'intervention dans le débat public, comme on l'a vu précédemment. Et ce que dit Antoine Blanchard, c'est que le blog est utile et est utilisé dans chacun en chacune des pointes de cette étoile. Il y a des blogs qui sont ce que Gilles Walker appelle des research logs, c'est-à-dire véritablement des journaux de bord d'une recherche en train de se faire. Et là, on est dans le domaine la production de connaissances certifiées. Il y a des blogs, beaucoup de blogs en fait de chercheurs ont commencé, et j'en discutais avec Eric Verdeil l'autre jour, donc beaucoup de blogs de chercheurs ont commencé parce que c'était des blogs d'enseignants-chercheurs et c'est le côté enseignant qui a commencé. C'est-à-dire un certain nombre d'enseignants-chercheurs ont commencé à ouvrir un blog pour leurs étudiants d'abord. Et en y mettant de la bibliographie, des nouvelles, des exercices éventuellement, des choses comme ça. Et ils ont commencé comme ça. C'est un autre exemple. D'autres blogs sont dans le domaine de l'innovation. Et on a vu aussi des blogs d'insertion dans le débat public, d'intervention dans le débat public. Donc je m'arrête là pour cette rose des vents de la recherche. Mais vous voyez, ça illustre cette diversité des usages du blog scientifique. Alors, Antoine Blanchard est responsable d'une association qui s'appelle l'Association des cafetiers des sciences, je crois que c'est comme ça, qui en tout cas a un portail qui s'appelle Café des sciences, qui est une sorte d'hypothèse.org, mais pour les sciences dures. Sans hébergement, c'est un portail d'agrégation, mais peu importe, mais pour les sciences dures. Et ce qui est très intéressant dans ce portail Café des sciences, et c'est un point sur lequel Antoine Blanchard est... Et c'est un point qu'il avance, c'est un point qui est très important pour lui, c'est que ceux qui bloguent, ce sont des chercheurs bien sûr, mais pas seulement. Ce sont aussi des documentalistes de recherche, ce sont des étudiants, ce sont des ingénieurs, ce sont des journalistes scientifiques et ce sont aussi des passionnés de science qui bloguent. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que quand on regarde le paysage des blogs de science, surtout en sciences dures, on voit que, si vous voulez, on a devant soi un visage diversifié de la science qui n'est pas seulement concentré autour de la figure du chercheur. Il y a un peuple scientifique, si vous voulez, qui est constitué de plusieurs rôles, en fait, et qui sont, qui bloguent tous et qui donnent, en fait, des visions différentes de la science. Alors, dernier point. Dernière partie de mon exposé, qui est un niveau un tout petit peu au-dessus. Pour l'instant, je vous ai parlé du blog, en fait, enfin des blogs, mais chaque blog étant individuel, d'accord ? Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe, et si ça devient intéressant, lorsqu'on essaie d'examiner les blogs comme étant un ensemble, et les interactions qui se passent entre les blogs eux-mêmes. Donc, j'ai parlé du blog jusqu'à présent, maintenant je vais parler des blogs, vous voyez les S soulignés, vous avez compris, ça fait trois fois que j'insiste, donc c'est bon, comme outil d'information scientifique. Et là, parce qu'on bascule, lorsqu'on examine les blogs comme collectif de blogs, on bascule dans une autre dimension qui est la création d'un outil d'information scientifique. Alors, il y a une très vieille tradition dans les blogs, pas scientifiques, hein, mais dans les blogs en général, qui est ce qu'on appelle les trackbacks. Donc, Marin vous en a parlé très très brièvement premier jour, en fait, hein, de la formation. Effectivement, il a eu raison parce que c'est quelque chose qui constitue les blogs en blogosphère. Le trackback, je vous l'explique en 3 minutes.
Derrière, je fais un schéma en même temps que tu
Super.
Parles.
Super, merci. J'ai pas trouvé de schéma, en fait j'ai cherché plein de schémas et comme il était 7h du matin, je pouvais pas le faire.
Voilà. C'est un schéma avec mes mains.
Alors, le trackback, c'est la chose suivante. Vous savez que je vous ai dit, les blogs, c'est des structures conversationnelles, ce sont des lieux de conversation. Et évidemment, les blogs conversent les uns avec les autres, les blogueurs conversent les uns avec les autres. Donc, quand vous regardez des billets de blog, dans beaucoup de cas, ce sont en fait des commentaires de billets d'autres blogs, évidemment. Et comme ce sont des commentaires, ces commentaires citent ceux dont ils font commentaire sous la forme d'un lien hypertexte. Ça va ? Donc vous avez des blogs qui citent des blogs et qui lient d'autres blogs. Donc si vous prenez le réseau maintenant qui constitue tout ça, ça vous fait ce qu'on appelle une blogosphère, c'est-à-dire des blogs qui sont reliés entre eux par des liens hypertextes. Et si vous prenez des blogs, le nombre d'hyperliens entre les blogs est beaucoup plus fort qu'entre n'importe quel autre site web. D'accord ? C'est les blogs qui ont le plus de liens hypertextes et qui se citent le plus les uns les autres. Alors ça, c'est pas mal, mais il manque quelque chose. Il manque une brique au niveau technologique. La brique qui manque, c'est que lorsqu'un blog est cité, et donc commenté par un autre blog, les lecteurs de ce blog cité ne savent pas qu'il a été commenté ailleurs. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la technologie du lien hypertexte est imparfaite, parce qu'elle est unidirectionnelle. Ça marche que dans un sens. Donc qu'est-ce qu'on a fait très très vite ? On a inventé des systèmes permettant de créer automatiquement, dès qu'un lien s'établit entre un blog et un autre, un deuxième lien qui va dans le sens inverse et qui permet au lecteur du blog qui est commenté de voir qu'il y a un commentaire et de retourner sur le blog qui commente le premier. Ça va ? Ok ? Ok. Super. Ouais, très bien. Alors ici, j'ai fait une capture d'écran sur le billet qui annonce le Read Write Book. Et vous voyez que 4 commentaires sur le Léo, hein, sur le blog leo.hypothèse.org, et vous voyez que 4 commentaires ont été publiés sur ce billet. Sur les 4 commentaires, vous avez 2 vrais commentaires, qui est le commentaire d'Aldus et la réponse de Marin. Et vous en avez 2 autres, qui sont ce qu'on appelle des trackbacks, c'est-à-dire des commentaires automatiques qui ont été insérés par cette technologie pour montrer, pour dire que, attention, il y a d'un côté topsy.com et de l'autre Serendipité qui ont cité ce billet. Et ça s'est fait automatiquement. C'est pas quelqu'un qui est venu pour insérer le lien. D'accord ? Donc, on a là une technologie de circulation de l'information dans les deux sens qui accroît donc la circulation de l'information. L'autre chose importante...
Ça se fait absolument automatiquement, ou c'est qu'il faut cliquer sur son blog, trackback ?
Alors, non, on le configure en fait. Hein. On configure le blog pour qu'il envoie, c'est le logiciel de blog qui envoie ce qu'on appelle un ping en fait, qui ping, donc il envoie une alerte en fait au blog qui est commenté, et c'est l'autre logiciel qui ensuite va recréer le lien à partir de cette alerte.
J'ajoute 2 précisions. La première, c'est qu'il faut que les deux plateformes comprennent la technologie du rétro-lien, parce que Trackback c'est la version anglaise, et je pense que rétro-lien on comprend un peu plus. Il faut que la personne qui écrit le billet, qui commente un autre blog, soit sur une plateforme qui comprend la notion de rétro-lien et que la plateforme commentée aussi le comprenne. Ça, c'est la première chose, mais c'est une technologie très rudimentaire. Donc, en fait, c'est pas très compliqué d'être conforme à cette technologie. Deuxièmement, vous n'êtes pas soumis à accepter le trackback si ça vous intéresse pas. C'est-à-dire, vous pouvez décider, je refuse tous les trackbacks parce que franchement, la conversation scientifique, je m'en fous, je suis dans mon coin et je ne veux pas qu'on m'embête. Tout à fait normal, tout à fait légitime. Deuxièmement, je peux dire, à l'inverse, j'adore les trackbacks parce que ça me fait venir des gens et ça envoie les gens vers les gens qui me lisent, etc. Je les accepte tous, c'est ce qu'on appelle la modération a posteriori. Mais si jamais il y a un spam, parce qu'il y en a dans les trackbacks, je peux l'effacer. Et puis la modération a priori, c'est-à-dire j'accepte les rétro-liens, mais je veux les vérifier et les valider ou les refuser. Parce que bon, c'est aussi une politique de qualité de l'information qui est sur mon blog. Je veux maîtriser ce qui se dit de la même façon que je veux maîtriser les commentaires dans certains contextes. Donc ça, c'est à la main de l'auteur. Et notre idée, si je peux me permettre de faire une incise, c'est que les livres pourraient rentrer dans ce type de conversation s'ils le souhaitent, et que c'est une alternative très forte à Crossref, dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'en fait, une technologie rudimentaire nous permettrait de ne pas jouer le jeu du DOI de Crossref, mais de jouer un autre jeu, et que ça pourrait se propager de façon très simple, parce qu'on sait comment faire déjà depuis très longtemps, il suffirait qu'on le fasse. Donc on peut peut-être admettre que ce serait une des recommandations de l'Université d'été.
Et j'ajoute que cet après-midi, donc en atelier blogué pour l'édition, on apprendra comment configurer son blog pour accepter ou refuser les trackbacks, les commentaires, etc. Alors, le deuxième point qui est important, c'est, vous savez bien que dans les blogs, dans la blogosphère, l'information, elle est disséminée partout. Un blog, c'est une petite chose. Chaque blog, si vous voulez, ne concentre pas l'information, mais l'information, elle est dispersée sur des milliers de blogs. Et donc, très très vite, il est nécessaire d'avoir la capacité de rassembler cette information, de l'agréger et de la rendre cherchable à travers une interface unique. Et donc très très vite, au niveau des blogs pas forcément scientifiques, on a eu des outils permettant à la fois d'agréger l'information, de la de l'ordonner, c'est-à-dire de faire apparaître l'information qui est la plus commentée dans les blogs, qui est la plus qui fait l'objet du plus grand nombre de publications, et de la chercher. Donc je vous ai donné ici quatre exemples, que sont Technorati, donc qui est un exemple un peu historique de moteur de recherche et de classement pour les blogs, qui est en train de tomber en ce moment, pour des raisons d'erreurs stratégiques sans doute de politique de développement, mais c'est très connu, donc voilà, c'est un exemple un peu historique. Wikio, qui fait un peu la même chose et qui lui insiste plus sur le classement en termes de popularité des billets de blog et des conversations. Et vous avez aussi le moteur de recherche Google Blog Search, donc qui est spécialisé sur un moteur de recherche sur les blogs. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est Overblog. Overblog, c'est une plateforme d'hébergement de blogs qui fait plus que de l'hébergement, puisqu'elle éditorialise en fait les contenus des blogs pour en faire une espèce de portail de magazine qui est fabriqué automatiquement à partir d'une ordonnancement, d'une hiérarchisation des billets de blog qui sont publiés sur le portail. Alors, en science maintenant, et c'est là que je c'est par ça que je termine. On a un peu la même chose. Les trackbacks, donc on les a bien expliqués. Ici, vous avez une capture d'écran d'un article qui a été déposé sur l'archive ouverte Archive, ou Archive, je ne sais pas comment on dit, dont Gabriel vous a parlé hier longuement. Donc tout va bien. Il y a quelque chose qui est assez récent sur Archive et qui nous intéresse énormément, c'est que depuis donc quelques mois, je crois, Archive a intégré la technologie de trackback qui permet, sur l'archive ouverte, de savoir quels sont les billets de blog qui commentent l'article scientifique qui a été déposé sur l'archive. Et ça, c'est intéressant parce que là, on voit qu'au niveau de la communauté scientifique, eh bien, on a une reprise de la technologie trackback qui ne vient pas du tout de la communauté scientifique, et une intégration et un lien surtout entre un dispositif relativement traditionnel qui est l'archive ouverte et le blog. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, il y a l'autre niveau dont j'ai parlé, hein, circulation puis agrégation. Le niveau d'agrégation qui est le suivant. Donc, en science aussi, il y a des plateformes d'agrégation de blogs scientifiques ou d'informations scientifiques en provenance des blogs. Alors, le premier type d'agrégation qu'on peut trouver, ce sont des plateformes liées à un établissement particulier. Je vous ai donné ici l'exemple de Stanford Blog Directory. Donc, l'université de Stanford a une plateforme de blog, a développé une plateforme de blog pour ses personnels, ses étudiants, etc. Et tient un espèce de portail des blogs de l'institution. En France aussi, un certain nombre d'universités ont développé des plateformes de blog. L'université de Provence en est une. L'université Paris 5 en est une autre, l'université de Rennes aussi, mais ça reste encore très minoritaire. Ça reste encore très minoritaire et c'est relativement peu développé en France, alors qu'aux États-Unis c'est quand même plus développé. Vous avez des groupes de presse scientifiques. Ici, vous avez un groupe de presse qui s'appelle Seed Publications, qui a trouvé qu'il y avait une matière d'information scientifique très intéressante dans les blogs de science et qui donc propose à tout le monde, en fait, à tout lectorat intéressé, un portail qui s'appelle Science Blogs, qui sélectionne un certain nombre de blogs, sans les héberger, hein, les blogs ils sont partout, ils sont sur plein de plateformes, etc., mais qui sélectionne un certain nombre de blogs et qui fait un portail alimenté à partir des billets de blogs qui sont publiés sur ces différents blogs. Donc des billets qui sont publiés sur ces différents blogs, excusez-moi. Et la technologie qui permet cette alimentation, c'est la technologie RSS, une technologie de syndication qui permet, si vous voulez, d'alimenter automatiquement un site distinct. J'ai quasiment fini. Mais t'as pris 5 minutes pour expliquer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail éditorial qui est fait sur cette agrégation. Parce que là, vous voyez, The Conversation, ça veut dire que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils voient qu'il y a 4, 5, 10 billets de blog répartis sur plusieurs blogs qui traitent du même sujet, qui parlent d'un sujet particulier. Et donc, ils les agrègent et ils permettent aux lecteurs de voir tous les billets de blog qui traitent de ce sujet-là. Donc, il y a un travail éditorial d'agrégation par thème ou par conversation ou par histoire. Parfois, on voit sur les portails des trucs d'histoire. Un autre portail, Research Blogging. Donc, j'entre pas dans le détail maintenant, mais je vous signale. Il est de bien meilleure qualité d'ailleurs. Hein, c'est un très très bon portail avec des blogs qui sont sélectionnés. Ils ont une politique de sélection qui est relativement sévère. Ils ne prennent pas tous les blogs qui veulent être agrégés sur le portail. Ils les sélectionnent. Et là encore, il y a une politique d'agrégation. Et puis, mon exemple un peu fétiche que moi j'adore, c'est postgenomic.com. C'est un portail qui agrège de la même manière des blogs, des billets de blogs en provenance de blogs de bioinformatique uniquement au départ, puis ensuite ça s'est un peu étendu à d'autres disciplines scientifiques, mais au départ c'était les bioinformaticiens, et qui ont fait quelque chose de plus. Donc les blogs, les billets de blogs sont agrégés et ensuite ils sont recatégorisés en fonction d'un certain nombre de critères et en fonction d'un certain nombre de clés d'entrée. Ici en particulier, vous voyez un article scientifique ici, dont je vous laisse lire le titre, je ne m'y risquerai pas, qui a été publié dans PLOSMED, donc une revue scientifique en ligne, et dont vous voyez un certain nombre de métadonnées, son DOI, son résumé, ses mots-clés, ses auteurs, etc. Et puis vous voyez en dessous le début de tous les billets de blog qui citent et qui commentent cet article scientifique. Donc c'est un peu la même chose qu'avec Archive, sauf que là c'est sur un portail dédié. De la même manière, les billets de blog se citent, les blogs se citent les uns les autres. Et donc vous voyez ici un billet de blog avec tous les autres blogueurs à droite qui discutent cette histoire et qui discutent, qui commentent ce billet de blog sur leur blogueur. Alors, PostGenomic a été, il y a un an, a été soutenu. Au début, c'était une initiative d'un chercheur, une initiative individuelle. Ça a été soutenu par le groupe Nature Publishing, qui a récupéré le code, parce que c'est un chercheur qui a développé le code, en fait, qui fait tout ça, hein, tout seul, et qui, depuis, a publié son propre portail qui s'appelle nature.com/blogs, qui fait la même chose, qui agrège. Et qui va ajouter sans doute d'autres fonctions de réorganisation des billets par thématique, par thème, par article commenté, par auteur, etc., etc. Et voilà, donc le dernier exemple sur lequel je reviens, voilà, ça vaut le coup quand même, je crois. Hein. Ouais. Parce que non seulement donc, c'est pour en parler, mais c'est aussi pour dire que c'est la direction dans laquelle, avec Hypothèse, nous souhaitons évoluer. C'est-à-dire qu'effectivement, Hypothèse est une plateforme d'hébergement de blogs, de valorisation donc de la communication scientifique hein, pour chacun des blogs. Mais l'idée, si vous voulez, avec Hypothèse, c'est d'atteindre une masse critique suffisante d'informations scientifiques en nombre de blogs, en nombre de billets, en nombre de disciplines couvertes, en nombre de chercheurs ou d'autres acteurs de la science qui bloguent sur cette plateforme pour agréger l'information et en faire quelque chose, en donner une représentation. D'abord pour chercher dans cette information, faire un moteur de recherche sur cette information, et pour agréger l'information selon des thèmes, selon des articles commentés ou des livres commentés, et ou selon d'autres, encore d'autres critères. Et c'est un des aspects sur lesquels on travaille avec. Donc c'est un projet qu'on avait déposé avec Adonis. Et on travaille avec Adonis parce qu'évidemment, il y a une implication forte sur ce que Adonis veut faire et va faire avec son infrastructure Isidore et son moteur en fait Isidore. Et donc Hypothèse va être une des sources de données pour Isidore. Et il y a cet enjeu de faire que les blogs, c'est pas seulement, si vous voulez, j'ai commencé en disant que c'était un amusement pour les, c'était un espace de liberté, hein, de plaisir pour les chercheurs, ça l'est. C'est un espace de conversation entre les chercheurs, ça l'est toujours. Mais c'est aussi un outil d'information scientifique à venir en virtuel, qui est en train d'arriver. Et qui risque d'être assez important et en tout cas très intéressant. Voilà mes sources photographiques, donc comme je mettrai en ligne le PowerPoint, vous pourrez retrouver. Donc voilà les crédits photographiques. Et donc merci particulier à Elodie pour la jolie photo qu'elle a faite et que j'ai utilisée de conversation scientifique que moi j'ai bien aimé. Voilà.
Minutes 55 secondes pour essayer d'avoir un échange conversationnel avec la salle. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, suggestion autour de ce qu'a vu Pierre.
J'ai le sentiment qu'avec les blogs, la fameuse blogosphère est en train de se dissocier peu à peu du reste de l'Internet et de devenir un espace de plus en plus autonome. On constate qu'il y a de moins en moins de perméabilité entre les sites Internet classiques, qui sont assez unilatéraux, assez délivrent une information de manière unilatérale, et puis les blogs qui, eux, sont très interactifs et se génèrent du mouvement entre eux, et de plus en plus entre eux, et de moins en moins en liaison avec le reste de l'Internet. Je ne sais pas si c'est réel, hein, c'est un sentiment que j'ai comme ça.
Moi, je suis assez d'accord. En fait, ça me fait penser à... je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Pierre Place qui s'appelle « La société contre l'État ». C'est un vieux livre d'ethnologie des années 60, 70, peut-être. Et dans lequel il décrit, en fait, les phénomènes de discours à l'intérieur d'une tribu des Indiens Guayaki. Je crois que c'est les Indiens Guayaki qu'il étudie. Et il parle du discours du chef en particulier. Et les Indiens ont une expression particulière pour le discours du chef, où ils disent que c'est un discours qui est dur, en fait. Il parle une langue dure, le chef. C'est parce que c'est une langue, c'est un discours qui n'appelle pas de réponse, qui est unilatéral, justement. Et effectivement, il n'y a pas de lien possible entre la conversation de tous les jours que tout le monde mène, en fait, qui appelle des réponses. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, ça appelle une réponse de votre part ou de la part d'autres. Et donc, c'est comme ça que la conversation se crée. Et certains discours qui, effectivement, sont unilatéraux et qui n'appellent pas de réponse. Et donc, c'est le phénomène que vous décrivez, en fait, au niveau des sites web. Vous avez des sites web qui ont un discours dur, en fait, et qui n'appellent pas de réponse. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, du coup ? Et donc, effectivement, les gens qui discutent entre eux continuent et discutent de plus en plus entre eux.
En fait, ce sont des robinets par rapport à l'arbre avec des branches,
c'est ça.
Etc. C'est une question d'autorité.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a cet aspect-là aussi qui est important. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas... que j'ai pas cité, mais c'est un billet qui a été publié, donc vous le retrouverez si ça vous intéresse, sur le blog collectif Urfist Info. Qui est un billet qui a été publié par Evelyne Broudou, qui est maître de conf en sciences de l'information et de la communication. Et donc son titre, c'est Autoritativité et énonciation scientifique dans les blogs, ou quelque chose comme ça. Où justement, elle pose cette question de l'autorité et la manière dont le scientifique, mettons, se positionne. Donc à partir de quelle position d'énonciation est-ce qu'il parle dans son blog ? Et dans un article scientifique qu'il publie dans une revue à comité de lecture. Et c'est la même problématique que André Gunther pose dans Whiteblog en disant on passe du nous au je. En fait, quand il dit nous, je ne suis pas certain que ce soit un nous, c'est presque un on en fait, hein, parce qu'il y a un effacement de l'individualité derrière une vérité objective en fait, dans la publication traditionnelle. Et donc il y a effectivement des oppositions, de positions d'énonciation qui sont très fortes entre le blog et d'autres formes de publication scientifique.
Ce que vous êtes en train de dire, je pense que le passage du papier Internet dans les sciences sociales comme la sociologie et l'anthropologie a déjà mis à mal, on va dire, l'autorité du chercheur. Dans la mesure où quand vous publiez un article scientifique, je sais pas, sur une société lointaine, on va dire, pour prendre un truc un peu caricatural, dans une revue papier, il y a très peu de chances que les gens avec qui vous avez travaillé puissent le lire. Mais ça change tout quand vous publiez ça sur Internet. Donc déjà là, la réflexion sur l'autorité du chercheur est forte, hein, parce qu'on peut être remis en cause très facilement par les gens de la société dans laquelle vous allez travailler, puisqu'ils ont accès, comme vous, à Internet et publier très bien lire ce qu'on a écrit sur eux.
Est-ce qu'ils ont droit d'écriture ?
C'est ça.
La question, c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont droit d'écriture sur le réseau ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait ouvrir.
Ah, mais c'est pas une réalité. Mais c'est pas une réalité, quoi.
C'est peu une réalité. Ouais.
Donc, dans le bouquin, dans la deuxième édition, il y aura au moins un article en plus qui est un article sur les 1. Faire un commentaire dans une revue scientifique en 1, 2, 3 étapes. C'est-à-dire en 123 étapes. Parce que donc un chercheur qui a publié donc un article disant voilà, moi j'étais pas du tout d'accord avec un article dans une revue et je vous raconte ce que j'ai fait pour essayer de pouvoir répondre à l'auteur de cet article. Et en 123 étapes, il obtient une réponse non. Hein, donc il a mis 6 mois en fait à ne pas avoir le droit d'écriture sur le réseau. Et donc aujourd'hui la revue est un bastion, tous les lieux d'édition sont des lieux de pouvoir. et donc c'est un bastion comme les autres. Il est possible que les blogs deviennent aussi des lieux de pouvoir après, et qu'en force d'entrer dans la lumière, ils se concentrent sur le centre, et que la pression centrifuge, la pression de l'épaisseur de l'eau qui est au-dessus d'eux l'écrase, et qu'ils se stérilisent petit à petit, ça c'est possible. Donc aujourd'hui, les revues ne sont pas des lieux formellement prévus pour les débats. Et donc c'est possible qu'on les transforme, qu'on les fasse évoluer, mais en 123 étapes, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Et c'est un peu vrai.
Mais en fait, ça revient à ma question du début, si vous voulez, de la double tradition de communication scientifique, en fait. Où effectivement, vous avez une tradition de communication scientifique où la revue est le lieu, le bureau d'enregistrement des découvertes scientifiques, et donc n'appelle pas au dialogue dans ce lieu-là, mais ailleurs, en fait. Et l'autre tradition, qui est celle du Journal des Savants, en fait, qui est un espace de dialogue, d'échange, et dont, me semble-t-il, le blog scientifique est justement l'héritier aujourd'hui.
Disons, je dirais encore, en anthropologie, la réponse, elle est sur le terrain. Quand vous revenez sur le terrain, s'ils ne sont pas contents
d'avoir écrit. Oui, d'accord. Oui, c'est sûr.
En histoire, ils sont à peu près tous morts, donc on est plus tranquille. Alors, il y a deux questions, et c'est les deux dernières, je crois. Il y a
Jean-Corinne, d'abord.
Alors, juste une question sur cet aspect de démocratisation de la conversation scientifique que tu as très bien montré, mais sur la notion de démocratisation, on peut penser que l'explosion, enfin le début surtout de l'explosion des blocs scientifiques a pu donner lieu à un frottement un peu inédit entre le savant et le profane, on pourrait dire le sacré et le profane, un petit peu de façon... C'est-à-dire que cette conversation, elle a pu inclure des amateurs, qui ne sont pas des scientifiques, qui pouvaient réagir et converser justement avec des scientifiques. Alors la question est la suivante, est-ce que l'évolution que tu décris, et notamment le projet Hypothèse en fait partie, alors est-ce que c'est une évolution, est-ce que j'ai mal compris, est-ce que c'est une tendance lourde d'aboutir à des plateformes d'agrégation, ne risque pas non pas de refermer, bien évidemment, puisqu'on est dans, on reste dans un espace ouvert, mais de le marquer de façon plus nette, davantage comme une recomposition d'un espace scientifique qui est moins dans ce dialogue possible avec les profanes.
Ah oui, et qui est séparé, du coup, qui se resépare,
voilà,
en fait.
Qui se resépare.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que tu penses ?
Alors, moi, je pense que le risque, non, parce que il y a, sur le point d'entrée vers le blog, il est double dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a la plateforme d'un côté, d'agrégation, et il y a le blog de l'autre. Alors, si on prend Research Blogging, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme Research Blogging, qui est science pure, dure, etc., il n'agrège qu'un certain nombre de billets, et ils donnent même un outil permettant aux blogueurs de dire « Ce billet-là, je demande qu'il soit agrégé, mais le billet suivant, où je vais parler de mon chat, de mes vacances, d'autres choses, je ne veux pas qu'il soit agrégé, mais je le publie quand même sur mon blog, parce que c'est mon espace de liberté, et j'ai le droit de parler de ce que je veux, et je parle en particulier de plusieurs choses, parce que je suis un homme complet, en quelque sorte, sur mon blog. » Et donc, on peut très bien avoir, et ça, c'est la technologie RSS qui est hyper basique et rudimentaire, est quand même un miracle de ce point de vue-là. On peut quand même avoir des espaces qui sont reliés entre eux, avec l'information qui est republiée sur plusieurs espaces et avec des lectorats qui peuvent être différents. Où effectivement, le chercheur, lui, dans sa pratique de recherche et d'information scientifique, il ne veut pas perdre de temps, donc il veut avoir accès à l'information filtrée par la plateforme. Mais sur le blog, l'information sera mélangée. Voilà, c'est cette possibilité-là. Voilà, c'est... Mais il y a du tri.
On va essayer de faire court avec les deux autres remarques. Mala et Jean-Pierre clôturera.
Moi, je voulais rapidement revenir sur la première idée de l'échange de correspondance scientifique. C'est vrai que celle du 17e, 18e, on la conserve dans les archives, on y revient, on la relit et on l'interprète différemment. Elle est toujours riche d'enseignements. Que devient l'échange scientifique au travers de ces blogs? Est-ce qu'elle est archivée quelque part? Est-ce qu'on peut la retrouver? Et est-ce qu'on pourra la retrouver même simplement dans 10 ans pour la relire d'une autre façon?
Tout à fait, c'est une bonne question.
La ZNF archive un certain nombre de sites web dans le cadre du successeur du dépôt légal, hein, donc c'est une forme de dépôt légal électronique. Malheureusement, la BNF ne publie pas la liste des sites qu'elle archive. Elle le dit d'ailleurs officiellement, nous ne vous donnerons pas la liste des sites que nous archivons. Donc je pense. Alors, ils ne disent pas pourquoi. Alors on nous dit, j'ai blogué ça en disant c'est quand même bizarre, et on m'a répondu mais c'est trop compliqué, ça ferait une liste de 10 millions de sites, c'est pas gérable. Ah non, mais on ne peut pas faire un petit moteur de recherche sur un tableau Excel, c'est pas possible ça. Donc en fait, ou bien parce qu'il y a une tradition de la fermeture, parce que ça va bouger, que c'est difficile de rendre compte des arbitrages et qu'ils ont peur que des gens souhaitent être archivés alors qu'ils ne le sont pas. Moi, j'ai essayé d'écrire pour demander si Revue.org par hasard était archivé, parce que ça m'aurait intéressé de le savoir. Je n'ai pas reçu de réponse à ce jour, mais peut-être que je le saurai. Et voilà, donc normalement il y a cette entreprise patrimoniale qui existe, il y a aussi Internet Archive qui fait la même chose à une échelle plus internationale, mais aussi c'est toujours sur des extraits, des bouts, etc. Mais effectivement il y a une problématique patrimoniale autour de la donnée numérique qui est quand même assez
importante. Oui, c'est aussi quand même une des raisons pour lesquelles on fait hypothèse, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons, c'est-à-dire... si vous voulez, nous, ce qu'on essaye de dire aux chercheurs en particulier, c'est... vous pouvez être hébergé sur Blogger, 26, Overblog, ce que vous voulez, mais eux, la pérennité de vos données, ils s'en fichent complètement, parce que ce sont des sociétés commerciales qui poursuivent d'autres objectifs qui n'ont rien à voir. Donc, ce qu'on essaye de faire avec Hypothèse, c'est aussi d'offrir un espace aux chercheurs où ils ont certaines garanties sur la pérennité de leurs données. Il y a ça aussi qui est important. Mais ça ne résout pas tous les problèmes, je suis d'accord.
Jean-Pierre clôture en faisant sa vie synthèse admirable.
Une synthèse admirable, mais une question qui est peut-être un petit peu pessimiste. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une forme d'inquiétude sur le fait que le développement du blog scientifique conduise à quelque chose d'un petit peu optimisé, figé, et qui d'une certaine manière s'institue et conduirait à ouvrir un espace, comme tu disais Pierre, dans le genre mineur, et qui aurait quand même ses formes propres d'expression, et qu'il faudrait trouver, alors là c'est peut-être la dimension optimiste, mais une troisième solution pour qui serait l'équivalent du blog aujourd'hui dans un futur qu'on ne connaît pas encore.
Alors, ça, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord, et ça répond aussi à ce que disait Marin sur la pression de l'eau. J'ai pas bien compris la métaphore, mais je vois à peu près, hein, la pression de l'eau sur le caisson. Ça répond aussi à ça, et ça répond aussi, donc là, je te conseille de lire aussi l'article de Gilles Walker sur Blogging from Inside the Ivory Tower, parce que c'est ce phénomène-là qui, à son niveau, elle exprime en disant je bloguais quand j'étais doctorante, maintenant que je suis directeur d'un département scientifique, c'est plus dur de bloguer. Donc il y a aussi ça qui joue, et là je suis d'accord, c'est un enjeu, c'est une question qui reste ouverte. Donc ou bien les blogueurs scientifiques, parce qu'ils y trouvent un espace de liberté, vont inventer leur propre parade à l'intérieur du genre blog, d'accord. André Günther a annoncé la fermeture des actualités de la recherche en histoire visuelle, d'accord. C'est un blog qui a une longue histoire. Il a dit, dans un de ses derniers billets, il a dit... tel mois, je vais le fermer et je vais ouvrir un autre blog ailleurs. Ça, c'est une parade. Il ne l'a pas dit explicitement, mais moi je le sens derrière, qu'il y a un phénomène de lassitude et aussi du fait qu'un blog devient très célèbre, très suivi, très populaire, très lu, très commenté, etc. Et donc du coup, c'est de plus en plus difficile et on perd cet espace de liberté. Et donc, il arrête et il recommence ailleurs. Je fais une hypothèse, je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est une hypothèse que j'ai vue ailleurs, chez d'autres blogueurs, pas scientifiques. Ou alors, le genre va se fossiliser, et il y a un autre genre qui sera créé ailleurs, effectivement.
Alors, on a légèrement débordé, donc nous reprendrons nos travaux à 10h50, ici pour le référencement.